Versets 22 et 23. Proverbe 14, 22-23. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Amen.
Vous pouvez vous asseoir, please.
Bonjour à ceux qui nous écoutent sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je ne vais pas vous parler de choses très compliquées, très difficiles à comprendre. Je vais vous parler de la méditation et de la vie au quotidien. Et en fait, de comment joindre la méditation à notre vécu. Comment être au bénéfice de nos moments de méditation. Alors, écoutez bien, ce n'est pas parce que ça va être facile à comprendre qu'il faut dire, bon, ben, je me relâche dans mon écoute, c'est des choses qu'on a déjà entendues, donc voilà, bon, ben, on va se reposer un petit moment en attendant le canard à l'orange. Frères et sœurs, nous savons que le but de chaque humain dans sa vie, c'est de trouver le bonheur et d'éviter la souffrance. C'est clair. Tout le monde pense comme ça. Tout le monde essaye de parvenir justement à ce bonheur et puis à éviter les souffrances. Mais en tant que disciples de Jésus-Christ, nous savons que notre vie a un sens beaucoup plus profond que ça. La vie, c'est pas seulement de travailler pour notre propre bonheur et pour notre propre bien-être et d'éviter les souffrances, mais c'est surtout d'accomplir le bonheur de Dieu et des autres. Accomplir le bien-être et le bonheur des autres, c'est le sens que Jésus donne à notre vie. Et notre responsabilité, c'est donc d'œuvrer à la fois au bien-être des autres, mais aussi au nôtre. Frères et sœurs, ça ne va pas se réaliser tout seul. Là, il est dit, tout travail procure l'abondance. Et c'est bizarre que le mot travail soit associé au fait de méditer le bien ou méditer le mal. Pour parvenir justement à ce bonheur qu'on veut donner aux autres, permettre aux autres de pouvoir vivre ce bonheur, ou simplement nous aussi de pouvoir bénéficier du bonheur, de cette joie de vivre, cette douceur de vivre, pour y parvenir, nous devons nous consacrer à notre objectif, avec du temps, avec de l'énergie, et pas simplement attendre. Parce que sinon, rien va se produire. Rien. Ou du moins, rien de ce que Dieu peut agréer. Quand on regarde les choses dans le domaine naturel, par exemple, si quelqu'un a faim, pour résoudre ses problèmes, il doit absorber de la nourriture. M. Lapalisse l'aurait dit. Répéter, j'ai faim, 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 ça ne sert à rien. Répétez Alléluia, Alléluia, Amen, gloire à Dieu, Alléluia, merci Seigneur, Alléluia, Alléluia, oh God, blablabla. Ça ne sert à rien. Répétez j'ai faim sans rien faire, sans remplir son estomac avec de la nourriture, ça ne sert à rien. C'est évident. Celui qui a faim, il va falloir qu'il agisse, qu'il cherche activement de la nourriture, et puis ensuite qu'il prépare un repas. Eh bien, c'est la même chose pour la réalisation de nos objectifs, c'est-à-dire éviter la souffrance, trouver le bonheur des autres et pour nous-mêmes aussi. C'est un travail, et tout travail procure l'abondance. Et toutes les paroles ne servent à rien, c'est ce que nous venons de lire. Pour atteindre notre objectif, pour procurer du bonheur, pour ôter la souffrance, pour les autres et pour nous-mêmes, il faut donc nous mettre à l'œuvre avec des méthodes appropriées. Comment s'y prendre? Eh bien, nous savons avant tout que nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits et nous habitons dans notre corps. Notre corps, ça n'est pas nous. Notre être, ça n'est pas nous. C'est pas ça nous. Nous, c'est notre esprit. L'être a été créé. À partir du moment où l'esprit est venu habiter le corps, l'être a été créé. L'être vivant a été créé. Notre âme a été créée. Mais ce n'est pas ça, nous. Nous, c'est l'esprit qui est en nous. Notre esprit éternel. Notre esprit qui vient de Dieu et qui habite ce corps. Et qui fait que, voilà, je dis, moi, je suis Michel Janton. Non, 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 j'ai un autre nom. Un nom éternel. Mon esprit a un nom. Que je reconnaîtrai. Quand je serai passé de l'autre côté. si mon esprit dans mon corps fonctionne correctement, alors mes actions et mes paroles vont suivre naturellement. En revanche, si mon esprit ne fait rien, mon corps, mes paroles seront inactifs pour Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne feront, ils feront des tas de choses. Mon corps va faire des tas de choses, blablabla, ma langue va beaucoup bouger, elle va dire beaucoup de choses, mais ça va rester dans le domaine de l'éphémère. Ce dont je vous parlais dimanche passé. Maintenant, il est 11h05. Nous avons décidé de venir ici, alors que la majorité des gens s'activent à des milliers de choses. Il y en a qui font leur marché, il y en a qui sont au foot, il y en a qui sont à toutes sortes. Moi, je vous rappelle que quand on allait au culte à la grange, on passait toujours vers la... je sais plus où... du côté de là où il y avait la fête de l'Huma, ils jouent au foot, là, tous les dimanches, qu'il pleuve, qu'il vente. Vous, vous avez choisi d'écouter la parole de Dieu. Vous avez une inclination vers ces choses-là. Suivant l'inclination de votre esprit, selon l'inclination de l'esprit, les uns vont faire ceci, les autres vont faire cela, et chacun va concrétiser les projets qu'il a. Nos entreprises, nos actes, nos paroles sont initialement déterminées par notre esprit. Par conséquent, si on augmente les capacités de notre esprit, vous savez que la capacité, ça veut dire la possibilité de contenir. Eh bien, notre esprit va devenir un agent de plus en plus efficace pour éliminer la souffrance des autres et de nous-mêmes et pour obtenir le bonheur pour les autres et pour nous-mêmes. Mais c'est une question spirituelle, c'est une question de notre esprit. Alors, pour acquérir cette puissance de l'esprit, de notre esprit, nous devons principalement nous appuyer sur ce que la Bible appelle la méditation. La méditation. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'est le plus efficace. C'est le moyen le plus efficace. En tant qu'enfant de Dieu, même si nous ne sommes pas de nature contemplative, nous devons prendre le contrôle de notre esprit. Si nous n'arrivons pas à nous rendre maîtres de notre esprit, nous n'arriverons pas à des fins agréables à Dieu. Quand un chrétien ne domine pas son esprit, il est dominé par son esprit. Nous devons dominer notre esprit. C'est pas, et non pas le contraire. Notre esprit ne doit pas nous dominer. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir, c'est très subtil. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se laissent avoir, et moi aussi. Et notre esprit, si nous n'en sommes pas maîtres, ne se soumettra pas au Saint-Esprit, mais c'est notre être, c'est notre âme, c'est notre être vivant, cet être créé, qui doit vouloir que notre esprit se soumette au Saint-Esprit. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas couramment dans les églises. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Savez-vous que le mot « méditer » dans la Bible est plus employé pour méditer le mal que pour méditer le bien? Vous pouvez chercher dans la Bible. Vous prenez une concordance, vous prenez Online Bible, j'espère que vous l'avez, c'est un ordinateur. Vous avez des jeux, c'est très bien, mais il faut aussi avoir Online Bible. Et vous allez voir qu'on médite l'injustice, le mal, des projets iniques, de la perte d'une personne, la tromperie, la méchanceté, les crimes, les mauvais desseins. On médite de faire tomber ceci ou tomber cela, tomber telle et telle personne. Et on trouve aussi quelques versets qui parlent de méditer sur ses voies, sur les ordonnances de Dieu, sur la parole de Dieu, sur le bien, sur les statuts de Dieu, sur les merveilles de Dieu, mais très peu. La plupart du temps, c'est méditer sur les choses mal. La méditation, ce n'est pas quelque chose de passif. On ne se met pas là comme ça, comme moi, je médite. Non. La méditation, elle est dirigée dans un certain sens, dans une certaine direction, volontairement, activement, volontairement, selon l'inclination de notre chair. Notre chair, c'est une amorce pour les esprits qui sont à l'extérieur de nous. Et selon nos propres aspirations, nos propres penchants, nos propres convoitises, les esprits qui sont à l'extérieur sont amorcés. Nos pulsions charnelles sont des amorces pour attirer les esprits extérieurs. chacun de nous, on a une chair. C'est-à-dire, nous sommes une personne avec des tendances. Et les amorces que nous sommes ne sont que notre chair. Et, par exemple, moi, je suis une certaine amorce pour certains esprits, mais vous, c'est pour d'autres. Il y a d'autres esprits qui vont être attirés par vous et qui ne vont pas être attirés par moi parce que je ne suis pas une amorce pour eux. C'est bizarre, hein? Tous les esprits ne sont pas attirés par votre chair. Vous avez chacun vos propres convoitises, vos propres tendances. Les esprits sont attirés vers votre chair, cette amorce, pour enflammer votre esprit. Le dictionnaire dit amorce. Écoutez bien. Petite masse d'explosif dont la détonation enflamme la charge d'une mine. Ah, c'est une amorce. Votre chair, c'est une petite masse d'explosifs. Et alors, ça attire, n'est-ce pas, des esprits, de l'énergie, de la lumière. Boum ! Ça va faire une petite explosion qui va faire s'enflammer votre esprit. Jacques a dit, chacun est tenté. Quand ? Chacun est tenté quand il est attiré. Qui attire ? Vous, c'est-à-dire l'esprit qui est en vous. Attire par sa propre convoitise. La convoitise, elle conçoit et elle enfante le péché. Jacques 1, 14, 15. Quand on est amorcé, on est attiré puis amorcé. La chair, ce n'est qu'un appât pour attirer les esprits. Ceux qui sont en dehors de vous. Ça les attire vers votre esprit. En fait, l'amorce, c'est juste la petite porte. Juste la petite charge d'explosif qui va faire brûler tout le reste. Votre esprit est attiré vers les esprits extérieurs à vous, vers les bons, mais vers les mauvais esprits aussi. Hier soir, on était chez nos amis catholiques. Il y avait un vieux prêtre à la retraite qui était là et qui a travaillé pendant 40 ans chez les papous. Et il nous a montré des diapos, il a dit, si vous voulez, je peux venir vous les montrer dans votre communauté. Je dis, bien sûr, c'est intéressant, un homme intéressant, il a vécu beaucoup de choses. Et il expliquait que là-bas, chez les papous, avant que le christianisme n'arrive, vers les années 1800 et quelques, 1850 par le tout, ils croyaient dans les esprits, mais uniquement dans les mauvais. Ils ne savaient pas qu'il y avait de bons esprits. Nous savons qu'il y a des bons et des mauvais esprits. Maintenant, nous, la parole de Dieu s'adresse à notre mental, à notre conscience. Notre esprit a l'inclination de venir écouter la parole de Dieu. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu parce que notre esprit a soif de ces choses. C'est pas notre chair, hein. Ne pas me dire que c'est votre chair qui a... Notre chair a des désirs contraires. Mais notre âme, elle dit oui ou non, suivant ce que l'esprit a comme inclination. Votre esprit a déjà une bonne inclination, puisque vous êtes là. Vous êtes là et vous savez que vous allez entendre la parole de Dieu. Votre âme, elle a appris à aimer les choses de Dieu. Votre être, il a été sauvé, votre être a été lavé par le sang de Jésus maintenant. Il a appris à aimer les choses de Dieu, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Écoutez bien ça. Votre esprit est sous influence d'esprits qui sont aussi des esprits perturbateurs. Ce n'est pas votre âme, votre être, votre corps qui est sollicité. C'est votre esprit, votre corps, votre être. Le diable s'en moque complètement. Les mauvais esprits s'en moquent complètement. Ce qu'il veut, c'est l'esprit qui est dedans. C'est ça, ce qui appartient à Dieu, ce qui est éternel. C'est ça que les mauvais esprits veulent souiller. Ce sont des esprits perturbateurs qui cherchent à dominer votre esprit. Et ensuite, votre âme va suivre et va subir les perturbations. Votre corps va subir aussi les perturbations. Ce sont ces esprits perturbateurs qui dictent leur loi dans ce monde. La Bible nous dit bien, ce n'est pas la chair et le sang. Ce sont des esprits. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on a lutté, mais c'est contre des esprits. Ça ne sert à rien de lutter contre votre chair, mais c'est contre des esprits. Et ce sont ces esprits perturbateurs qui conditionnent vos comportements et vos actions, ou alors qui ne les conditionnent pas. Ça peut être le Saint-Esprit qui conditionne votre comportement, mais c'est toujours dans le domaine de l'esprit. On fonctionne ainsi. Et c'est continuel tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nous sommes en permanence dans notre corps, c'est-à-dire par notre esprit dans notre corps, confronté à toutes sortes de problèmes. Et ces problèmes ne se limitent pas à nous-mêmes ou aux autres, mais nos problèmes viennent de l'influence de ces esprits perturbateurs qui existent bel et bien. C'est pourquoi on doit prendre le contrôle de notre esprit. Notre esprit. On ne peut pas prendre le contrôle de tous les esprits. Mais si nous prenons contrôle de notre esprit, alors notre esprit a une puissance pour contrôler le reste. Et c'est pour ça qu'on doit méditer. Maintenant, la méditation, ce n'est pas se détendre. Ce n'est pas s'allonger par terre et se détendre. Lorsqu'on s'assied pour méditer, on doit considérer ça comme un travail. Quelqu'un qui médite le mal, il réfléchit, il pense, il fait des plans, il est organisé. Si vous méditez la perte de quelqu'un, vous vous étendez pas en disant « Oh, non, non, vous pensez, vous réfléchissez, vous faites des plans. Comment je vais faire pour le détruire, pour le foutre en l'air ?» Une méditation, c'est un travail, c'est quelque chose d'important. C'est un travail. Tout travail procure l'abondance. L'abondance de bien ou l'abondance de mal, mais c'est le travail. Quand on s'assied pour méditer, on doit considérer cela comme un travail. La prise de contrôle de notre esprit. Si vous pratiquez la méditation pour vous relaxer, je pense que vous feriez mieux de dormir. C'est très efficace et ça ne demande aucun effort. Sauf qu'il ne faut pas méditer couché. Ou alors, il faut être très fort. Moi, des fois, je médite couché. Parce que j'ai atteint un certain niveau où je peux me permettre de méditer couché parce que je sais que mon esprit tient le contrôle et je ne suis pas en relation avec des mauvais esprits. Et là, Dieu peut me parler. Mais tout le monde ne peut pas y arriver. Parce que ça, c'est se mettre un petit peu dans la passivité. Si vous n'êtes pas suffisamment fort, c'est les mauvais esprits qui vont se présenter d'abord. Parce qu'on est dans un monde de mauvais esprits. C'est le monde du diable ici. Méditer, c'est se familiariser, c'est accoutumer votre esprit, votre vrai vous, à des réflexions destinées à faire apparaître les vertus chrétiennes, les forces chrétiennes. Voilà ce que c'est la méditation. C'est vous familiariser, c'est vous accoutumer votre esprit à ces choses-là. Alors, méditer longtemps, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est méditer bien. Méditer correctement. Par exemple, quand on veut faire quelque chose, par exemple la cuisine, du tricot, ça m'arrive très rarement, mais enfin bon. Construire un mur ou n'importe quoi, eh bien, il faut d'abord apprendre, acquérir un savoir-faire. Moi, je ne vais pas commencer à aller réparer la machine à laver, à faire la lessive là-bas. Comment la machine à laver, on dit. Dans la chambre à lessive. Vous savez que chez nous, en Suisse, ce que vous appelez la lingerie, nous, ça s'appelle la chambre à lessive. Vous ne saviez pas, hein? Je vous apprends quelque chose. Mais maintenant, on appellera ça la chambre à lessive, s'il vous plaît. Je trouve que c'est très bien. La salle, la chambre à manger chez nous, mais aussi la chambre à lessive, la chambre à coucher, la chambre à lessive. Voilà, c'est une loi chez nous. Maintenant, on ne dira plus la lingerie, on dit la chambre à lessive. C'est beaucoup plus joli. Je vais pas aller trifouiller là-dedans. Il y a un certain savoir-faire. Eh bien, maintenant, si vous êtes déjà attentif à mener une vie disciplinée, c'est ça, être un disciple, à mener une vie disciplinée, eh bien, vos moments de méditation seront plus fructueux, ils n'auront pas besoin d'être très longs, parce que vous aurez déjà l'habitude de la discipline. Donc, les choses viendront plus rapidement. Écoutez ça. La plupart des chrétiens ont un temps de méditation chaque jour, mais tout le reste du temps pour annihiler les bienfaits de leur méditation. C'est ça le problème. Ils ne font pas le joint entre leur moment de méditation et après. Il n'y a pas besoin de vous fier à moi pour croire ça, il n'y a qu'à regarder simplement. Lorsque vous quittez le moment de méditation, vous vous mettez à parler à tort à travers d'un tas de choses, d'un tas de machins, vos actions dans tous les sens, et machin, patin, couffin, et alors ça ruine tous les bienfaits de la méditation. Il faut qu'il y ait un lien entre la méditation et votre vécu. Sinon, la méditation, ça ne sert à rien qu'à passer un bon moment, se détendre. On ne vient pas ici pour se détendre. Quand vous méditez, ce n'est pas pour vous détendre. Il faut qu'il y ait un lien entre ces moments-là et votre vécu. Donc, on a vu, un, il est bon de savoir méditer correctement. Deux, il faut faire en sorte que nous ne perdions pas les bénéfices de notre méditation. Et on va étudier ça pendant quelques temps. On va étudier ça. Ce matin, c'est la deuxième prédication à ce sujet. Vous vous souvenez de ce film de Moody qui s'appelait « Les fenêtres de l'âme » ? C'est bien, hein ? Mais moi, je vais vous parler des portes de vos sens, les portes. Vos sens sont des portes. On en a cinq. Puis on a aussi un mental. En général, on dit que c'est par nos cinq sens que les choses extérieures entrent en nous. Mais moi, je vous dis, ce sont aussi par vos cinq sens que votre esprit se disperse vers l'extérieur. Par exemple, si les portes du château sont grandes ouvertes, Potter! Ah oui, pour ceux qui écoutent Internet, il faut que vous sachiez que nous avons un chien, c'est un caniche royal sublime, qui a deux frères et sœurs en Suisse. Le nôtre, il s'appelle Potter, comme Harry. Juste pour embêter un peu les chrétiens évangéliques qui voient le diable partout, nous n'avons pas peur du diable. Il est vaincu, pauvre diable, il est vaincu au nom de Jésus. Nous appelons notre chien Potter. Bon, il est à l'intérieur du château, Potter. Quand il sort, oh là là, c'est terrible parce que nous avons un parc de 4 hectares avec un étang. En ce moment, comme il y a eu, l'eau a beaucoup baissé, alors c'est boueux, il adore aller là-dedans. Bon. Si les portes du château sont grandes ouvertes, notre chien Potter, qui est à l'intérieur du château, va courir, il va entrer, il va sortir, il va échapper à tout notre contrôle. Vous êtes d'accord? Et les cinq sens de notre mental, ce sont des portes ouvertes. Et notre esprit, c'est impossible de le tenir sous contrôle. Il va entrer, sortir, se mettre sous toutes sortes d'influences, il va entrer, sortir. Vous allez me dire, ah bon, si. On doit apprendre à notre esprit de rester à l'intérieur, tranquille. C'est ça la maîtrise de soi. Comment y parvenir? D'abord, il nous faut savoir que ce qui frappe, ce qui impressionne nos cinq sens, notre mental, c'est de trois natures. Certaines choses de l'extérieur sont perçues comme agréables, d'autres comme désagréables et d'autres neutres. Ni agréable, ni désagréable. Indifférent. Ça nous est indifférent. Par exemple, une forme peut être agréable ou désagréable. Un son peut être agréable ou désagréable, ou neutre. Si vous trouvez une chose agréable, c'est votre nature qui la trouve ainsi. Et ça diffère d'une personne à l'autre. Par exemple, moi, j'aime les kitscheries. Marc, il dit ça. Hein? J'aime les kitscheries. Lui, au contraire, il ne me regarde même pas. On passe dans un magasin où il y a des kitscheries. Moi, je m'arrête. Je regarde, lui, il ne regarde pas et ça le fait rire. Ouais, ce qu'il appelle des kitscheries, ce n'est pas forcément des kitscheries. C'est, pour moi, ce n'est pas des kitscheries. Les kitscheries, pour moi, c'est autre chose. C'est encore plus bas de gamme encore que ce que lui appelle mes kitscheries. C'est moi, voilà. J'aime bien, par exemple, la colonne avec ce bronze doré. Ce machin, il appelle ça une kitscherie. Une kitscherie à 5000 balles, quand même. Mais chacun son... Simone, elle aime l'opéra. Pour d'autres, l'opéra, c'est désagréable, voire insupportable. Pourquoi je dis ça? Parce que qu'un son soit agréable ou pas n'est pas le fait du son lui-même. Qu'une forme soit agréable ne vient pas de la forme elle-même. Ça vient de la personne. Il en va de même pour les goûts, les couleurs, les odeurs, les contacts avec les gens, tout ça. Qu'il nous soit plaisant ou non, ne tient pas des objets ou des personnes eux-mêmes. Ça vient de nous. De la manière dont vous les percevez vous-même. Qu'est-ce qui fait qu'un objet vous paraît agréable à vous? Comment ça se passe? Comment ça se fait, par exemple, pour l'opéra ou Sylvie Vartan, mes kitscheries, mes machins? Comment ça se passe? Mes yeux voient. Vos yeux voient. Vos yeux, c'est quoi? C'est de la chair. C'est c'est de la chair, c'est de la peau. Il y a de la peau d'œil. La peau d'œil. Ensuite, il y a un nerf, c'est encore de la chair. Nerf optique. Ça va à votre cerveau. Là, il y a... Ça passe déjà à un niveau différent. C'est des connexions électriques qui se font, là. Déjà, c'est un peu plus subtil que la peau de vos yeux. Mais il faut que d'abord que ça passe par la peau de vos yeux. Il faut d'abord que ça passe par les petits marteaux, le tympan, toutes ces choses, c'est de la chair. Hein? Là, après, ça touche votre mental. De même, quand on écoute un son, après que le son auditif, que votre sens auditif a perçu le son, eh bien, votre conscience auditive l'apprécie ou pas. Voilà, c'est agréable ou c'est désagréable ou c'est... on s'en fout. Et trois possibilités. Alors, à la suite de la perception d'une sensation agréable, par exemple, il se produit un désir, un attachement envers cet objet, envers ce son, envers les tableaux, par exemple, il y a un attachement. Cette sensation plaisante, c'est la condition de l'apparition du désir ou de l'attachement. Une fois que le désir, l'attachement est apparu, ça entraîne l'esprit. Ça enflamme l'esprit. Et l'esprit devient soumis à la domination de ce facteur perturbateur ou pas perturbateur. Mais ça dépend si c'est un mauvais ou un bon esprit. Qui est derrière. Et ça va conduire à une certaine façon de vous comporter, négative ou positive. On va lire 2 Pierre 2:19. 2 Pierre 2:19. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Qui a triomphé de vous, c'est-à-dire de votre esprit? Le Saint-Esprit ou des esprits perturbateurs? Qui a triomphé de vous? Est-ce que vous êtes esclave de mauvais esprits ou est-ce que vous êtes esclave, serviteur de Jésus-Christ, le Saint-Esprit? Allez, Jésus nous parle de renoncement. Jésus nous parle de lâcher prise. Pourquoi? Parce que nos sens, suivant l'inclination de notre chair, de notre nature, suivant qu'elle a accumulé comme sensation tout au long de sa vie, au sujet des choses agréables et désagréables et neutres, suivant ce qu'il a accumulé, notre esprit va échapper à notre contrôle et manifester des actions que la Bible appelle spirituelles, charnelles. Ça devient clair? Qu'est-ce que c'est une action charnelle? C'est une action, un déploiement d'énergie, c'est-à-dire un déploiement d'esprit, de puissance, non contrôlée par l'Esprit de Dieu. Souvenez-vous, la chair, c'est-à-dire le corps, sans l'esprit, c'est mort. D'accord? Ce qui fait vivre le corps, votre chair, c'est l'esprit. C'est votre vie qui est en vous. Suivant ce à quoi vous vous attachez, ça va triompher de votre esprit. Soit le Saint-Esprit, soit les esprits perturbateurs. C'est pourquoi, par la méditation, vous devez apprendre à fermer les portes. Dans mon ordinateur, j'ai un truc rigolo, je ne sais pas qui c'est qui m'a mis ça. De temps en temps, on entend... une porte qui s'ouvre, et chlap, elle se ferme. Ah, on me fait penser qu'une porte fermée. Notre esprit, nous devons par la méditation apprendre à fermer les portes, afin que notre esprit ne vagabonde pas comme Potter dans le parc. Et les actions accumulées, par exemple, les actions négatives, accumulées, qu'on fait, qu'on répète, comme ça, laissent sur notre esprit une empreinte, une potentialité qui sera à l'origine de toutes nos difficultés, de nos souffrances futures. Et suivant les circonstances que vous allez rencontrer, eh bien, ces empreintes déposées dans votre esprit vous attirent vos souffrances physiques, mentales et compagnie. Mais il y a aussi des bonnes empreintes qui, suivant les situations dans lesquelles vous trouvez, vont provoquer chez vous des satisfactions, du bien-être, du bonheur et des bonnes choses. Ça dépend. Quelles empreintes sont sur votre esprit? Ça marche dans le positif, ça marche dans le négatif. Le fait d'accumuler des actions gentilles, positives, bonnes, dignes de louange, ça crée des empreintes sur votre esprit, des voies. Et plus vous accumulez des actions et des paroles gentilles, agréables, etc., etc., plus les voies vont être profondes et plus ça va être facile pour vous. Mais c'est l'accumulation. L'accumulation dans le vécu. Dans le vécu de tous les jours. Ces empreintes dues à l'accumulation d'actions dirigées volontairement donnent à votre comportement une marque gentille et positive, ou alors des marques méchantes, stupides, crétines, impures, etc., etc. Ouh. Alors, la méditation, c'est donc un moment où nous influençons volontairement notre esprit, en l'obligeant à rester en nous, sous contrôle, en nous. Voilà, tu vagabondes pas, tu restes là. Je veux que tu restes là. Voilà, c'est comme ça, comme on dit à Potter, non, quand il veut sortir. Hein? Des fois, on le laisse sortir, parce qu'il faut bien aussi qu'il aille... Certaines choses, il doit les faire dehors. Donc, le parallèle n'est pas toujours valable avec Potter. Hein? Nous devons obliger notre esprit à rester en nous, sous contrôle, avec des pensées élevées, avec des pensées honorables, avec des pensées dignes de louange. C'est pourquoi la Bible dit « occupez votre esprit ». La souffrance, alors, ne peut pas s'installer en nous. Elle peut nous effleurer. Si notre esprit ne se laisse pas marquer par ce qui se passe derrière la porte. Derrière la porte, on peut entendre tous les bruits, tous les machins. Ça peut entrer, bien sûr. C'est dehors, ça peut entrer en vous. Par l'ouïe, par la vue, par le toucher. Mais souvenez-vous, Matthieu 15, 11, Jésus dit, c'est pas ce qui entre en vous qui vous souille, c'est ce qui sort. C'est-à-dire la manifestation de l'esprit qui est en vous à partir de ce qui est entré. Comment est-ce que quand l'esprit sort, c'est-à-dire quand vous manifestez quelque chose, est-ce que c'est une manifestation spirituelle ou est-ce que c'est une manifestation charnelle? C'est ce qui sort de vous qui vous souille, et non pas ce qui entre. Peu importe ce que vous voyez, c'est pas ça qui vous souille. Vous tombez sur une image sale, par exemple, ou sur un son épouvantable, vous savez, les ongles sur un tableau noir. C'est affreux. Mais ça ne vous souille pas. Mais si vos empreintes à l'intérieur sont mauvaises, vous allez sortir un juron épouvantable quand vous allez entendre ce son. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas ce qui entre en vous qui vous souille, c'est ce qui sort. Matthieu 15, 11. Rien ne peut te souiller à moins que tu laisses une empreinte s'installer. C'est-à-dire que tu ne veilles pas. Voilà pourquoi Jésus insiste sur veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Veiller. Veiller à quoi? Veiller à ce que vos portes soient fermées. À ce que vos portes soient fermées. Votre conscient, votre mental doit recevoir une formation de gardien des portes. Et ça ne se fait pas en une seconde, cette formation. Ce n'est pas parce que vous êtes né de nouveau que vous êtes un gardien balèze. Par contre, ça se décide en une seconde. La formation, ça prend toute la vie. Toute la vie, vous allez être en formation. Mais la décision, c'est en une seconde. Oui, je déclare que mes portes sont fermées à tout esprit perturbateur. Ils peuvent taper à la porte, ils peuvent entrer un petit peu, mais ils ne font pas d'empreinte dedans. On les dégage. D'accord? Oui, je veillerai à cela et Dieu me viendra en secours. Dieu m'aidera. Alors, évidemment, il y a des moments où on va succomber, il y a des moments où on va se laisser avoir. Bon, ben c'est vrai, voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave de chez grave. Jésus est là pour justement nous pardonner, nous purifier, pour enlever ces empreintes mauvaises qu'on aurait par mégarde, parce qu'on n'a pas veillé, parce qu'on n'a pas fait attention, laisser. Mais Jésus est là pour purifier toute chose. Si nous confessons, si nous parlons jour après jour, si chaque jour, nous laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Alors, jour après jour, vous allez progresser, et jour après jour, le gardien aux portes va devenir de plus en plus balèze, et les esprits de moins en moins effrontés, ou seront de moins en moins se frotter à vous. C'est ça le chemin de la sanctification, c'est-à-dire le chemin de la mise à part pour Dieu. On se met à part pour Dieu. Où est-ce que je me mets à part? En moi-même. Mes portes sont fermées. Le diable vient frapper à la porte. J'envoie le Saint-Esprit répondre, comme dit Osborne. Amen. Mais ça, c'est le travail de toute une vie. Alors, ne vous découragez pas si vous vous êtes laissé avoir. Bon, vous êtes laissé avoir. Non, c'est une bataille perdue, mais ce n'est pas la guerre perdue. Vous pouvez vous relever et dire, voilà, maintenant, le gardien, tu fais plus attention, hein. Tu as fait une expérience, maintenant tu fais gaffe. Amen. La méditation, entretenez des pensées, mais volontairement, pures, etc., etc. Et accumulez des actions, c'est-à-dire que ce qui sort de vous soit bon, louable, etc. Exercez-vous à faire les choses d'une façon consciente. Par exemple, quand vous donnez la dîme au début du mois, il faut que ça soit une cérémonie. Il ne faut pas que ça soit simplement, voilà, je le fais parce que c'est écrit. Il faut que ça soit une cérémonie spirituelle. Ça sort de vous. Ô Dieu, je t'apporte une offrande selon ta parole. Vous voyez? C'est que de l'argent, vous allez me dire. Mais il devient saint parce que c'est une cérémonie. Vous ouvrez la porte, ça devient un moment spirituel. Je le fais, je dépose ça. C'est une offrande. Hier, on était donc chez les catholiques, là-bas, chez Nathanaël et Mathilde, et ils ont fait un petit chant. Qu'est-ce que c'était, ce petit chant? On le connaît. C'est un chant, ça dit, voilà... c'était basé sur la parole de Dieu. J'étais nu, vous m'avez habillé. Puis on a vu quelqu'un qui a porté un habit. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. Et ils sont emportés devant l'autel, là-bas, dans l'église, de la nourriture, un plat avec de la nourriture. C'était sous forme d'image. Eh bien, je pense que quand vous donnez votre dîme, ou quoi que ce soit que vous fassiez, il faut que ça soit très cérémonial. C'est ça. C'est ça. Ce qu'ils ont fait là, c'est des images, c'est très joli, c'est très joli. Mais nous, on doit aussi avoir ce cérémonial, mais en esprit, en vérité. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait n'est pas bien, mais ce que nous devons faire, nous, par exemple, pour la dîme ou pour n'importe quoi, tout ce que vous faites le matin quand vous vous levez, Seigneur, j'ai rendez-vous avec toi. Je descends, c'est une cérémonie, je descends dans la prière, j'élève ma voix, c'est pas simplement là, c'est mon tour de dire mon baratin à Dieu, non, c'est quelque chose qui sort de moi, ça me construit, et ça crée des habitudes, et ça crée une empreinte de plus en plus, et ça devient de plus en plus facile de le faire, de plus en plus agréable de le faire, vous voyez la chose? Amen, c'est bon? Ça vous parle? C'est une cérémonie. On a des habitudes. Par exemple, là, tout à l'heure, on va rentrer au château et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous avez besoin de réfléchir? Bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse déjà le dimanche après le culte? On fait quoi déjà? Qu'est-ce qu'on fait déjà? Ah oui, l'apéro. Vous n'êtes pas obligé d'y réfléchir. C'est devenu une habitude. Hein? Et c'est facile. Est-ce que c'est difficile d'aller chercher les bonnes bouteilles et les bons verres qu'il faut? Vous savez ce qu'il faut pour tel et tel apéritif, ce qu'il faut pour tel et tel autre apéritif? On sait. Et c'est facile de le faire. Est-ce que c'est difficile? Non, parce que vous avez pris une habitude. Il faut prendre des habitudes, À force d'accumuler des actions, ça devient facile. C'est difficile au début. Ne vous étonnez pas si votre chair, elle n'aime pas. La chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit, du Saint-Esprit. Mais votre esprit vient de Dieu aussi, mais il a tout oublié, tout ça. Il faut le réhabituer aux choses saintes, aux choses sacrées, aux gestes posés, qui sont des gestes sacrés. Donner sa dîme, c'est un geste sacré. C'est comme autrefois, quand le prêtre venait devant l'autel offrir le sacrifice à Jérusalem, déposant le sacrifice devant Dieu. C'est comme autrefois, Abel déposant un sacrifice devant Dieu. Voilà, il était agréable à Dieu. Caïn, il vient déposer n'importe quoi, n'importe comment, sans s'occuper, s'il appelait à Dieu ou pas. Non, nous nous occupons, est-ce que ça plaît à Dieu? Oui, ça c'est juste, c'est bien, on le fait. C'est une cérémonie, c'est beau, c'est un moment qu'on fait. C'est quelque chose qui est particulier, qui est précieux. C'est magnifique. Amen.
Simone, elle a une cérémonie. Elle met dans l'enveloppe de la dîme une petite, un petit mot gentil qu'elle a pris la peine d'écrire. Je les garde tous, j'en ai un paquet, dis donc. C'est magnifique, c'est joli. Elle a, et puis des fois, elle a pas le temps. Elle me dit, excuse, j'ai pas écrit, j'ai pas mis le petit mot. Mais pour elle, c'est comme si elle avait fait une infidélité. Hein? C'est vrai, Simone, ce que je dis là. Parce qu'elle a, elle a pris cette habitude de le faire et c'est joli. C'est quelque chose de joli. Et ça marque son esprit, ça marque. Et le moment où elle ferme cette enveloppe, c'est une cérémonie. C'est cérémonial. On est comme ça. On est comme ça, mes frères et sœurs. C'est pour, voilà pourquoi dans tous les cultes, vous voyez le prêtre qui s'avance avec une fleur ou avec un n'importe quoi, un machin, un truc, et puis on s'incline. C'est dans toutes les religions, dans le monde entier, que ce soit chrétien ou pas, parce que c'est en nous, ça. Suivant l'inclination que nous avons, suivant les habitudes que nous avons créées. Nous avons des habitudes qui sont créées par l'enseignement de la parole de Dieu. Faisons de nos actes des actes sacrés pour Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez compris. Amen.
Une main tendue dans le milieu du jour, une main tendue qui réclame l'amour. C'est un peu comme la vie des humains sans lendemain. La main tendue dans le milieu du jour, la main tendue qui réclame l'amour. Ne vois-tu pas la main de ton prochain dans le besoin? Jésus remplit le cœur de celui qui a peur. Jésus remplit la main de celui qui a faim. Pour qu'il soit près de toi, il suffit de lui demander. Une main tendue à chaque instant du jour, une main tendue pour te donner l'amour, pour te guérir de toute maladie et te bénir. La main clouée dans le milieu du jour, la main clouée te prouvant son amour, l'amour de Jésus mourant sur la croix pour tes péchés. Jésus remplit le cœur de celui qui a peur. Jésus remplit la main de celui qui a faim. Pour qu'il soit près de toi, il suffit de lui demander. Jésus remplit le cœur de celui qui a peur. Jésus remplit la main de celui qui a faim. Pour qu'il soit près de toi, il suffit de lui demander.